longtemps que les Belges avaient abandonné la partie là-bas.
Et donc il était tentant de prendre leur place.
Naturellement. Et notre pays a joué un rôle éminent dans la sécession katangaise.
Le Katanga, il faut le rappeler, qui est la province la plus riche du Congo.
Oui, nous avons donc soutenu Moïse Tshombe, le sécessionniste, opposé au progressiste Lumumba.
Mais quand vous dites que nous avons soutenu...
Nous avons appuyé la création d'un véritable corps de mercenaires.
Il s'agit des fameux affreux.
Oui, c'est-à-dire d'anciens militaires belges, français ou autres européens. Et des Africains blancs, Sud-Africains ou Rhodésiens, et pas mal de soldats perdus, comme on disait alors.
Oui, des soldats en rupture de banc.
Oui, des activistes qui avaient choisi le mauvais camp en Algérie. Et disons-le franchement, ça arrangeait bien le gouvernement français de les savoir combattre au Congo plutôt que de participer à quelques manœuvres factieuses en Algérie ou en métropole.
Et Denard est parmi eux.
Bien entendu. Ouais. C'est au Congo qu'il va en quelque sorte trouver sa voie et devenir un mercenaire professionnel. Toutefois, son parcours va être assez sinueux.
C'est-à-dire ?
Il combat donc aux côtés des Katangais de Tshombe et il affronte le corps expéditionnaire de l'ONU.
Un casque bleu.
Ouais, puis il laissera tomber Tshombe pour rejoindre Mobutu, le nouvel homme fort du Congo. Mais comme celui-ci est décidément trop pro-américain, il revient vers Tshombe.
Et attendez, dans cet aller et retour, là, il faut voir la main des services français.
Oh, c'est évident. Nos services sont très présents au Congo tout au long de cette interminable guerre civile. Et Denard n'est jamais très loin de nos agents. J'ajoute que le mercenaire a fait une parenthèse dans ses aventures congolaises. En 1963, je crois, il est allé combattre avec les royalistes du Yémen contre les républicains soutenus par Nasser. Et désormais, on va le retrouver un peu partout en Afrique, à chaque fois qu'un mauvais coup se prépare.
Vous n'avez pas l'air de beaucoup l'aimer. Hein.
Comment pouvez-vous croire une chose pareille ? Non, c'est vrai, je n'ai pas une grande estime pour ce genre d'hommes qui font la guerre pour de l'argent et qui tuent pour de l'argent. Toutefois, je reconnais une qualité, un courage physique indéniable. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis de regrouper autour de lui toute une équipe de durs qu'il traînera longtemps à ses côtés.
Un chef, quoi.
Un chef, oui, malgré ses échecs et ses rodomontades.
Le théâtre de ses exploits, enfin je mets le mot entre parenthèses, hein, c'est donc essentiellement l'Afrique.
Oui, c'est le terrain idéal pour ses mercenaires. Ils peuvent y affirmer facilement leur supériorité face à des militaires africains mal armés et mal entraînés, face à des régimes trop souvent corrompus et instables.
Oui, la supériorité de l'homme blanc, ça.
Malheureusement, oui. Mais c'est un combat sans gloire pour cette soldatesque de sac et de cordes. Et pourtant, malgré ça, les mercenaires de Denard ont connu de sévères déroutes, en Angola d'abord, puis bien sûr au Bénin lors de cette désastreuse opération Crevette. Crevette, vous imaginez.
C'est vrai que ce nom de code fait un peu ridicule.
N'est-ce pas ? Mais je ne veux pas défendre Bob Denard. Il me semble que dans ce dernier cas, il a peut-être été entraîné dans un piège. Et ce ne sera pas le dernier qu'on lui tendra.
Qui est vraiment Bob Denard ? En novembre 1995, l'hebdo Afrique Magazine lui consacre un portrait. J'en extrais ces quelques lignes où sont retracés ses débuts de mercenaire au Katanga. À Paris, Jacques Focard et Pierre Dabezy s'intéresse à cette frondeuse province qui renferme dans son sous-sol environ 73% du cobalt destiné à l'Occident, 60% de l'uranium, du cuivre et bien sûr des diamants. Pour Denard, c'est une occasion en or. À 30 ans, il choisit l'un des plus vieux métiers du monde, mercenaire. À la tête de 25 Européens et de 150 Katangais, il harcèle les troupes du gouvernement de Léopoldville, sabote les installations de l'Union minière et guerroie contre les casques bleus des Nations Unies. Ainsi naît la légende des affreux, ces hommes au visage barbouillé, montant au front en poussant des cris terrifiants. J'ai combattu entièrement nu avec une cartouchière pour seul vêtement, raconte aujourd'hui le mercenaire sans avoir peur du ridicule. Au service de Tshombe puis de Mobutu, il se fait un nom, sculpte sa renommée et découvre l'Afrique. Sa vie secrète, brouillonne, tout droit sortie d'un mauvais roman, son expérience de la violence, sa volonté d'engagement physique, jusqu'à ses aventures sentimentales, version nostalgie du colon blanc, resteront à jamais marquées par la grandeur lyrique du continent. « Je suis un Africain blanc, nous disait-il, et j'ai du sang noir dans les veines. Lors de mes blessures, des camarades noirs m'ont sauvé la vie, et puis, beaucoup d'Africaines m'ont donné des enfants. C'est un lien sacré. »
C'est en 1972 qu'un homme joufflu, vêtu d'un battle dress, s'empare du pouvoir à Cotonou, capitale économique et administrative du Bénin.
Un coup d'État, quoi.
Oui, et c'est tristement banal en Afrique.
Ça, c'est sûr, oui.
Mathieu Kérékou commence par mettre en prison les présidents qui l'ont précédé, puis doit faire face à un premier complot, mais il y en aura beaucoup d'autres. Et aussi quelques arrestations sommaires, et des exécutions, bien sûr. Un capitaine, par exemple, sera abattu sous le prétexte falafieux qu'il aurait séduit l'épouse du président.
C'est donc une dictature.
Une dictature qui n'est ni pire ni meilleure que dans beaucoup d'autres pays africains. On y torture, mais on y tue beaucoup moins qu'ailleurs.
Ah.
Ajoutons qu'à la star du Congo-Brazzaville ou de la Somalie, Kérékou opte pour le socialisme scientifique et introduit par là même une belle pagaille dans son petit pays.
Est-ce qu'il choisit aussi le camp socialiste ?
Bien entendu. Et à Paris, on n'apprécie pas beaucoup. Mais il n'y a pas que Paris. Dans de nombreuses capitales africaines, les dirigeants s'inquiètent.
Toujours la peur de la contagion.
Toujours, oui. N'oubliez pas que c'est la guerre froide et que la Chine et l'URSS ne cessent de gagner des points en Afrique. En outre, Kérékou s'est mis en tête d'aider le Front Palisario.
Il y a la rébellion sahraoui.
Et ça ne plaît pas du tout au roi Hassan II.
Si je comprends bien, c'est une sorte de coalition qui va se former contre le Bénin.
Incontestablement. Le cerveau se trouve bien sûr à Paris, à l'Élysée précisément. Focard, en principe, ne s'occupe plus des affaires africaines.
En principe, ça veut dire qu'il continue à garder un œil sur le continent.
C'est forcé. L'ancien conseiller de De Gaulle et de Pompidou a tissé des liens personnels avec beaucoup de dirigeants africains. En outre, il fait des affaires en Afrique. Donc, il demeure influent. Et puis, c'est un homme à lui qui est en charge de ce secteur à l'Élysée, René Journiac.
Alors, c'est Journiac le cerveau ?
Probablement. Mais le président Giscard d'Estaing ne pouvait pas être tenu dans l'ignorance. Mais vous savez comment ça se passe. Ce genre d'affaires, on ne délivre pas de consignes écrites. On se contente de donner un feu orange du bout des lèvres.
Pour ne pas se mouiller, quoi.
Et on surveille à distance. Alors, peu à peu, le scénario se met en place. Il faut d'abord trouver des opposants béninois pour remplacer Kérékou. Un homme fort fait l'affaire, un certain Gratien Pognon, qui a été ambassadeur en Belgique. Il a créé un mouvement fantomatique, le Front de Libération du Dahomey. Mais il agit vraisemblablement pour le compte d'un autre homme.
Qui
Un ancien président, Émile Zinzou. Le Maroc est bien entendu partie prenante du complot. Hassan II met à la disposition des futurs mercenaires un camp militaire où ils pourront s'entraîner. Et comme il faut une base de départ qui ne soit pas trop éloignée du Bénin, on choisit le Gabon. Là-bas, nos services étaient chez eux.
On a parlé déjà, le clan des Gabonais, c'est ça?
Oui. Ouais. L'ambassadeur Delaunay est un ancien des services, tout comme Robert, le chef de la sécurité de la compagnie Elf, qui fait l'appui et le beau temps au Gabon. Il faudra encore citer De Bizet, le patron du SAC, qui occupe une fonction officielle à la présidence de la République gabonaise. Et puis, il y a Bob Denard, bien sûr.
Mais attendez, lui, que fait-il au Gabon là?
En 1976, le président Bongo en fait son conseiller technique. À coup sûr, une couverture pour permettre à Denard de préparer son affaire contre le Bénin. Mais je dois à l'honnêteté de reconnaître que le président Bongo a toujours nié avoir été mêlé à l'opération Crevette.
Écoutez, il ne pouvait pas en être autrement, non? Enfin, j'imagine que la France non plus ne s'est reconnue aucune responsabilité.
C'est évident.
Et l'argent?
Il ne manque pas, des centaines de milliers de dollars.
D'accord, mais enfin, qui perd?
Là, c'est pas très facile de le savoir, mais à mon avis, chacun a dû verser son obol. Il n'est même pas exclu que Elf n'ait pas participé au financement de l'opération. Elf qui a été créé par De Gaulle d'abord pour préserver nos intérêts économiques en Afrique. Il ne faut pas l'oublier quand même.
Restent les mercenaires?
Bob Denard a d'abord son noyau de fidèles, des hommes qui ont combattu avec lui au Congo, au Biafra ou à Cabinda. Mais ça ne suffit pas. Alors Denard passe des annonces dans la presse française.
Recherchons mercenaires ?
Non, quand même pas, non. L'annonce mentionne simplement qu'une société d'outre-mer recherche des agents de sécurité. C'est quand même plus discret. Et les candidats ne manquent pas. Il paraît que plus de 4000 personnes répondent à l'annonce. Il faut donc procéder à une sévère sélection.
Et Denard, pour cette opération, a besoin de combien d'hommes ?
Il a prévu de recruter une centaine d'hommes, en majorité des Européens, plus une poignée d'Africains.
C'est peu, non ?
Denard considère que ça suffit. Ces mercenaires seront puissamment armés et en cas de résistance ne devraient faire qu'une bouchée de la petite armée béninoise. En outre, débarquant en pleine nuit, ils bénéficieront de l'effet de surprise.
Et tout se passe comme prévu ?
Après le recrutement, les mercenaires qui vont tous être grassement payés rejoignent par petits groupes le Maroc où ils vont subir un entraînement militaire.
Et savent-ils quelle va être leur mission ?
Non, on le leur dira au dernier moment dans l'avion qui les emportera vers le Bénin.
Il s'agit d'éviter une éventuelle fuite ?
Naturellement.
Et l'opération elle-même, alors, comment a-t-elle été préparée sur le terrain ?
Denard a envoyé l'un de ses hommes au Bénin et sous couvert de faire du tourisme, l'homme a recueilli des informations et repéré les lieux. Le chef des mercenaires a donc pu mettre au point un plan très précis.
Avec quels objectifs ?
Très classique. Il faut à la fois s'emparer du palais présidentiel, neutraliser Kérékou.
Neutraliser, c'est-à-dire ?
Se débarrasser de lui.
Ah bon ?
Et en même temps, on conquiert la plupart des ministères et l'immeuble de la radio, bien sûr.
Donc, après tout ça, Denard va maintenant pouvoir agir.
Oui. À la mi-janvier 1977, les mercenaires arrivent en avion sur l'aérodrome de Franceville, au Gabon. Un autre appareil, un DC-7, les attend. On commence à charger le matériel, des caisses et des caisses, et il y a même une cantine dans laquelle les mercenaires qui se sont dépouillés de tout ce qui permettait de les identifier ont remisé leurs affaires personnelles. On y a aussi glissé des documents sur la préparation de l'opération elle-même.
Et cette cantine va être du voyage, si je puis dire ?
Oui, aussi étrange que cela puisse apparaître, Denard dira plus tard qu'il ne voulait rien laisser derrière lui.
Il y a un cas de pépin, alors les Béninois peuvent s'emparer de cette cantine ?
Mais ils n'ont même pas besoin de le faire. Au cours de leur déroute, les hommes de Denard oublieront cette cantine sur le tarmac de l'aérodrome de Cotonou.
Ça semble quand même complètement fou.
Oui, mais c'est pourtant la vérité, enfin... Une partie
Attends,
de la vérité.
Attendez, là, pourquoi vous pensez que cette cantine-là n'a pas été oubliée par hasard?
Enfin, n'allons pas trop vite, hein. Mais j'essaierai quand même de répondre plus tard à votre question.
Ouais, je compte bien, en effet, parce que moi, j'arrive pas à comprendre cette histoire. Voilà. Revenons quand même au déroulement des événements. Les mercenaires embarquent donc dans ce TC-7.
Oui, mais il y a un pépin et le décollage va être retardé. Et ça pèsera sans doute très lourd dans cette affaire.
Pierre Péan est sans doute l'enquêteur qui a le mieux décortiqué le système des réseaux Focard. Dans son livre « L'homme de l'ombre », il affirme que c'est lui, Jacques Focard, qui a mis en place au sein de la société ELF un véritable réseau de renseignements susceptible de concurrencer les services spéciaux. Son chef est le colonel Robert, un ancien du SDEC, et Péan écrit « Robert, qui est au centre de cette nouvelle toile d'araignée, travaille à partir de mars 1975 avec une vieille connaissance, l'ambassadeur Maurice Delaunay. Le président gabonais, qui redoutait beaucoup le départ de son protecteur de l'Élysée, il veut parler de Focard, a fait des pieds et des mains pour que son ambassadeur revienne. Robert complète son réseau en créant d'abord au Gabon puis en France des sociétés de gardiennage qui constitueront en quelque sorte son propre service action. Au Gabon, avec l'aide de Pierre de Bizet et Bob Denard, il porte sur les fonds baptismaux la Société Gabonaise de Services, SGS. Cette officine devient rapidement un repère de gros bras dont personne ne connaît exactement les curriculum vitae. À Port-Gentil, la SGS assure la surveillance des bâtiments d'Elf Gabon et en pratique celle des principaux centres économiques de la capitale. La SGS devient le symbole d'une convergence d'intérêts où on retrouve au coude à coude le SAC, un directeur d'ELF, un mercenaire qui travaille occasionnellement pour le SDEC, Bongo et sa cour. Le livre de Péan a été publié en 1991 chez Fayard.
Ce pépin, là, au dernier moment, hein, expliquez-moi.
Au moment de décoller, le pilote s'aperçoit qu'il y a une fuite d'huile sur un des moteurs, donc impossible de partir, il faut réparer. Et ça va prendre au moins 2 bonnes heures. En fait, ça durera presque 4 heures.
Alors l'opération est remise au lendemain, hein ?
Non, pas du tout. Denard ne veut pas. Et pourtant, il sait que ce retard va avoir pour conséquence de l'empêcher de bénéficier de la surprise d'un débarquement de nuit.
Ah oui, il prend des risques.
Et chez un homme de guerre aussi expérimenté, c'est bizarre.
Peut-être que les Gabonais ne tiennent pas à ce que cette centaine de mercenaires ne s'attarde trop longtemps chez eux, non ?
C'est en effet possible.
Et alors, à quelle heure le DC-7 décolle ?
Vers 3 heures du matin. Et il lui faut traverser tout le golfe de Guinée avant d'atteindre Cotonou. Mmh. Avec un avion turbopropulseur comme le DC-7, il y en a au moins pour 3h30 ou 4h, hein, en volant au ras des flots pour échapper au radar.
Ça veut dire que les mercenaires vont arriver au petit matin.
Oui, oui. Mmh. Vous savez que le jour se lève très tôt en Afrique.
Mmh. Et comment ça se passe alors ?
C'est un dimanche. Aucun avion n'est attendu ce matin-là sur l'aéroport international de Cotonou. À 7h, le DC-7 atterrit sur la piste, braque très vite à droite et se présente devant le bâtiment principal. Aussitôt, les mercenaires descendent de l'appareil grâce à des perches métalliques et se précipitent dans l'aéroport, dont ils prennent le contrôle très facilement.
Ça commence plutôt bien.
Oui, et pourtant les mercenaires auraient dû avoir la puce à l'oreille en survolant Cotonou. Dans le cockpit, on a assisté à un curieux spectacle. Tous les bateaux amarrés dans le port ont tous pris la mer les uns après les autres.
C'est comme si on voulait éviter que les assaillants s'en emparent pour éventuellement fuir en cas d'échec.
Ça y ressemble, non ?
Ça signifierait que les Béninois s'attendaient à être attaqués.
C'est ma conviction.
Il y avait donc une fuite.
Ou une manipulation. Et notez-le bien, l'attitude de Denard lui-même est très curieuse. Pendant que ces hommes qui ont réquisitionné le personnel de l'aéroport déchargent leur matériel, il prend soin de placer une jeep devant le nez du DC-7.
Pour l'empêcher de redécoller, là. Mais pourquoi ? Enfin, il n'a pas confiance dans les pilotes ?
C'est probable.
Et là, les pilotes, là, l'équipage...
Un Américain et un Suédois.
des mercenaires, eux aussi, quoi.
Je n'en sais rien, mais on peut aussi se dire que Denard veut être certain de pouvoir repartir et donc de retrouver le DC-7.
Oui, comme s'il s'attendait à un échec.
Et pourquoi pas?
Je vous trouve bien mystérieux. Hein.
Ce n'est pas moi qui suis mystérieux, c'est cette affaire, du début jusqu'à la fin. Mais poursuivons. Les mercenaires ont donc déballé leur armement et ils se répartissent en trois colonnes. La première et la seconde vont se diriger vers le palais présidentiel et la radio. Ils vont être accompagnés par le commanditaire béninois du coup d'État, ce Gratien Pognon, qui a préparé un discours à prononcer sur les ondes.
Et la troisième colonne ?
Elle doit s'attaquer à un camp militaire qui abrite un stock d'explosifs et de munitions. Très vite, ces trois colonnes doivent affronter une surprenante résistance.
Encore une fois, les Béninois les attendent.
Oui, il y a parmi eux des instructeurs nord-coréens et les gardes du corps du vice-président nord-coréen qui est alors en visite officielle à Cotonou. On assiste donc à des combats de rue où les mercenaires, pourtant puissamment armés de lance-roquettes et de mortiers, ne parviennent pas à prendre l'avantage. Autre échec, le palais présidentiel de Mathieu Kérékou est inutilement bombardé. Le président ne s'y trouve pas.
Encore un indice prouvant que les Béninois connaissaient les plans des mercenaires.
Ou le fait que le coup avait été mal préparé. Il était de notoriété publique que le président préférait résider dans sa propre demeure plutôt qu'au palais. En tout cas, le résultat, c'est qu'au bout de 3 heures à peine de combat, Denard se rend compte qu'il est vain de continuer à se battre et il sonne la retraite.
Les mercenaires rebroussent ce chemin donc vers l'aéroport.
Oui,
c'est ça,
et ils emportent leurs blessés et leurs morts.
Nombreux ?
Non, quelques-uns seulement.
Et du côté béninois ?
5 ou 6 morts, me semble-t-il. Les hommes de Denard rembarquent donc dans le DC-7 sous les tirs de l'armée béninoise et ils retournent d'où ils sont venus, c'est-à-dire au Gabon. Et ensuite, après avoir reçu leur solde, ils regagneront leur pays respectif.
Ouais, mais ils ont, parce qu'on avait dit, ils ont oublié cette fameuse cantine sur le tarmac de Cotonou.
Oui, et plus tard, Denard affirmera que cette cantine a été débarquée par erreur au sol avec les caisses de munitions. En fait, elle aurait dû rester à l'intérieur de l'appareil. Autre oubli, un mercenaire africain qui était en faction sur le toit de l'aéroport. Ce brave homme s'était paisiblement endormi. Et dans la panique, ses camarades n'ont pas pensé à le récupérer.
Beau fiasco.
En effet, car cet homme capturé vivant se montrera très bavard.
Ouais, enfin, il y a quand même surtout ces documents qui se trouvent dans la cantine.
Exactement, là. Des documents qui ne sont même pas codés. Et les enquêteurs béninois, puis ceux de l'ONU, pourront reconstituer une grande partie de l'affaire et identifier la plupart des mercenaires. Il en sera de même pour les policiers français qui seront saisis de l'affaire.
Saisis par qui ?
Les familles des victimes béninoises tuées au cours de ce coup de force. La justice française instruira donc l'affaire et en prenant tout son temps. Et ce n'est qu'en 1993, vous en souvenez peut-être, que Denard comparaîtra devant une chambre correctionnelle et sera condamné à une peine de principe.
De sursis, hein, c'est ça.
Et 16 ans après les faits, une sorte de record. Ça veut dire que quels que soient les gouvernements qui passent, il est des secrets qu'il vaut mieux taire.
Ouais. Alors, justement, que fallait-il dissimuler ?
Bien d'abord, relevons une nouvelle fois les éléments les plus étranges de cette affaire. Inutile de revenir sur l'oubli malencontreux de la cantine sur le tarmac de l'aéroport de Cotonou, mais examinons de plus près son contenu.
Ah, c'est-à-dire ces documents qu'on n'avait même pas pris la peine de coder.
Oui, et il y a aussi une serviette frappée aux initiales de Bongo, ABB, Albert Bernard Bongo. D'autre part, dans les documents, Bongo est clairement incriminé.
À dessein ?
Bon, on ne peut pas éviter de se poser la question. Et si on rapproche ça du fait que les Béninois attendaient manifestement les mercenaires, c'est encore plus troublant.
Je veux bien, mais quelle conclusion pouvez-vous en tirer alors ?
Il n'y a que 2 hypothèses. La première a été émise par Bongo lui-même qui a affirmé que cette affaire avait été ourdie par les Béninois de façon à le discréditer.
Ouais.
Le président gabonais a d'ailleurs prétendu que cette histoire de cantine avait été montée de toutes pièces par les services de Mathieu Kérékou.
Peut-être, enfin, cette cantine a quand même existé.
Et Bob Denard lui-même n'a jamais nié son existence ni la réalité de son contenu.
Alors, la deuxième hypothèse.
Les vrais commanditaires de l'opération Crevette avaient vraiment prévu de se débarrasser de Kérékou.
Les vrais commanditaires, la France, les services spéciaux.
Oui, mais ils avaient garanti leurs arrières. En cas d'échec, tout était prévu pour que Bongo soit montré du doigt et assume la responsabilité de l'opération.
Pour dégager la responsabilité de la France.
C'est possible.
Mais quand même, enfin, Bongo, un des meilleurs amis de la France.
Ben justement, ça permettait aussi de le tenir d'un peu plus près.
De le tenir, oui. Bon, et Denard, lui, il aurait été au courant ?
Écoutez, franchement, je n'en sais rien. Mais le chef mercenaire n'avait rien à refuser au service secret dont il était un collaborateur régulier.
Ouais. Mais dans votre deuxième hypothèse, hein, comment expliquez-vous que les Béninois aient été prévenus ?
Une trahison. Trop de gens étaient au parfum, comme on disait dans les années 60. En tout cas, après cet échec retentissant, Denard devait rapidement changer d'air et tenter un nouveau coup pour redorer son blason. Ce sera aux Comores, où il avait déjà sévi en 1975. Je vous propose donc d'en parler lors de notre prochaine rencontre.
La justice française n'a en effet montré aucun empressement dans l'affaire béninoise. Ainsi, voici ce que je lis dans un chapitre des dossiers secrets de l'Afrique contemporaine édité par Jeune Afrique. Le 23 juin 1981, le juge d'instruction délivre un mandat d'arrêt contre Bob Denard. Lancé sur l'ensemble du territoire français, ce mandat ne sera curieusement jamais exécuté. Le 25 août 1986, la justice française rend d'ailleurs une ordonnance de non-lieu, la preuve n'étant pas faite que Bob Denard ait eu personnellement une intention de tuer ou qu'il ait donné des instructions en ce sens. Deux jours plus tard, les avocats du Bénin font appel de cette décision. L'affaire est examinée par la 4e chambre d'accusation de la cour d'appel le 24 septembre 1987. Le ministère public demande une confirmation pure et simple de l'ordonnance de non-lieu, utilisant pas moins de 16 articles du code de procédure pénale. Sans vraiment y croire, maître Nordman et Dessous, quant à eux, en ont réclamé l'annulation. Ils demandent la mise en accusation de Denard devant la cour d'assises de Paris pour complicité par instruction, aide, assistance et fourniture de moyens d'homicide volontaire et association de malfaiteurs. C'est la surprise lorsque la chambre d'accusation rend, le 12 novembre 1987, son verdict. Les juges ordonnent l'inculpation de Denard et de son compagnon. Pour la première fois, un pays européen reconnaît non seulement la culpabilité de ses propres ressortissants dans un coup de force organisé contre un pays africain, mais les inculpe. Cet article a été signé par Francis Kpatindé. Enfin, je ne peux pas ne pas citer ces quelques lignes extraites d'un livre signé par Bob Denard lui-même, sous le titre « Le corsaire de la République ». Il part des jours qui ont suivi la piteuse opération Crevette et il écrit. Des rumeurs commencent alors à courir sur mon compte. Selon certains, Kérékou lui-même m'a fait manipuler par ses services secrets dans le but de renforcer son pouvoir. D'autres me soupçonnent d'avoir trahi mes commanditaires. Je décide de me taire, de ne pas entrer dans la polémique et reviens en France. Après avoir fait le tour de la situation avec mes commanditaires, je conseille à mes fidèles de se mettre en sommeil. Denard n'en dit pas plus, c'est dommage. Prendre sa revanche, le mercenaire Bob Denard n'a que ça en tête après son échec à Cotonou en 1977. Nous l'avons vu samedi dernier avec M. Yves, ce collaborateur intermittent de nos services spéciaux a joué un rôle trouble dans cette opération armée qui visait à renverser le président du Bénin, Mathieu Kérékou. Mais, manipulé ou non, c'est Denard qui porte la responsabilité apparente de cette débâcle. Et dans un métier où la concurrence est rude, où il faut soigner son image de marque auprès des clients, c'est-à-dire faire la preuve de son efficacité, le mercenaire doit rebondir. Alors, une nouvelle fois, la France va lui offrir une occasion d'exercer ses talents très particuliers dans l'archipel des Comores. Un point d'histoire avant d'écouter M. X. C'est au 19e siècle que les quatre îles qui composent l'archipel au parfum, comme on l'appelait autrefois, sont colonisées par la France. Les îles ont été islamisées au XIIe siècle, mais à Mayotte, peuplée de malgaches et de créoles, il existe une forte minorité chrétienne. Ce particularisme va peser sur l'histoire mouvementée de l'archipel, puisqu'aujourd'hui encore, cette île demeure française, alors que les trois autres, Anjouan, la Grande Comore et Moëlly, sont regroupées au sein d'une république fédérale islamique. En 1973, Georges Pompidou promet l'indépendance au président du conseil du gouvernement de l'archipel, Si Ahmed Abdallah, un riche commerçant d'Anjouan. Mais le président français meurt prématurément. Abdallah négocie avec le candidat Giscard d'Estaing. Il fera voter pour lui si le futur président s'engage à donner l'indépendance aux Comores. Giscard, élu, tient parole. Quelques mois après son élection, un référendum est organisé. Trois des îles optent massivement pour l'indépendance. Mais les habitants de Mayotte, eux, expriment leur volonté de rester français. Embarras de Paris. Abdallah exige l'indépendance pour l'ensemble de l'archipel, tandis que le gouvernement français, arguant du vote des Mahorais, considère que Mayotte doit demeurer dans l'orbite de la France. Abdallah, furieux, dénonce le néocolonialisme français et proclame unilatéralement l'indépendance des quatre îles. Un mois plus tard, il est renversé par un coup d'État, un putsch orchestré par le mercenaire Bob Denard et vraisemblablement initié par nos services secrets. Ce ne sera pas la seule intervention de Denard aux Comores. Il y reviendra en 1978, après son échec au Bénin, et il restaurera le président Abdallah qu'il avait chassé 3 ans plus tôt, encore une fois avec le soutien de nos services. Notons enfin, avant d'écouter M. X, que les Comores occupent une situation stratégique éminente. Au sortir du canal du Mozambique, elles se trouvent sur la route maritime du pétrole moyen-oriental.
Les Comores ont joué un grand rôle dans la vie du mercenaire Denard. Et lui, qui a déjà semé pas mal d'enfants un peu partout en Afrique, il trouvera même le moyen de s'y convertir à l'islam sous le nom de Saïd Mustafa Hadjou et de prendre 2 épouses selon la tradition musulmane.
Eh bien, sa première intervention aux Comores se situe donc en 1975.
Oui, il faut alors chasser le président Abdallah qui refuse que l'île de Mayotte reste française. Le dirigeant comorien fait grand bruit, en appelle à la communauté internationale. Il convient donc de l'évincer. Son remplaçant est tout trouvé, c'est le chef de l'opposition de gauche, Ali Swali, qui a déjà affirmé son intention de rétablir des relations normales avec la France et qui prend le pouvoir au mois d'août. Mais tout n'est pas réglé, car Abdallah s'est réfugié dans son fief d'Anjouan.
Et c'est là que Denard va intervenir, j'imagine.
Bien entendu.
Comment ça se passe ?
Oh, le plus simplement du monde. Un beau jour de septembre, Bob Denard débarque d'un avion cargo, bourré d'armes, qui vient d'atterrir sur l'aérodrome de la Grande Comore. Il est naturellement accompagné de quelques amis qui composent sa vieille garde. À noter, détail très intéressant, que cette arrivée se déroule sous l'œil indifférent de quelques gendarmes français.
Ce qui prouve pour vous le fait que les autorités françaises se trouvaient derrière cette affaire.
Naturellement. Sur place, Denard recrute quelques dizaines de Comoriens. Il se rend sur l'île d'Anjouan où il arrête sans aucune difficulté le président Abdallah et ses proches.
Un coup d'État a parfaitement réussi.
Et succès incontestable pour Denard qui peut repartir tranquillement en France. Ensuite, nous en avons longuement parlé la semaine passée, ce sera pour lui le fiasco de Cotonou en 1977. Mais pendant que Bob Denard prépare inutilement la déposition du président béninois, les choses se gâtent aux Comores.
Que s'y passe-t-il alors ?
Le président Swali, que la France a contribué à mettre au pouvoir, se révèle à l'usage bien ingrat. Non seulement il se comporte en dictateur, mais il opte lui-même pour le socialisme scientifique et proclame la révolution marxiste.
Exactement comme Kérékou, là.
Et comme bien d'autres dirigeants africains en ces années-là. Mais en plus, Swali se retourne contre la France, à qui il reproche avec virulence de ne pas vouloir rendre Mayotte aux Comores.
Tout comme son prédécesseur.
Et à Paris, on se dit que tout compte fait, il serait sans doute plus facile d'avoir à la tête de l'archipel un homme tel qu'Abdallah. Un grand bourgeois, un ami de Focard, que nul ne peut soupçonner d'être un révolutionnaire.
Il a quand même accusé la France de néocolonialisme.
C'est vrai, mais s'il revient au pouvoir dans les fourgons des mercenaires de Bob Denard et avec la bénédiction des services français, on peut peut-être espérer qu'il oubliera ses critiques et se résignera à accepter la tutelle de notre pays sur Mayotte. C'est donc ainsi que le 13 mai 1978, une date symbolique pour l'ancien partisan de l'Algérie française qu'est Denard, les mercenaires refont leur apparition sur la Grande Comore.
Alors, encore un débarquement aérien?
Non. Cette fois, Denard a choisi la voie maritime. Il arrive sur un morutier accompagné de 50 hommes. Et sans coup férir, il s'empare du pouvoir. Abdallah, qui coulait des jours paisibles à Paris, est appelé à revenir aux Comores, où il retrouve son poste de président.
Et Swali, alors?
Il a été arrêté et emprisonné par Denard. Mais quelques semaines plus tard, au cours d'une prétendue tentative d'évasion, il est abattu.
Exécuté, vous voulez dire ?
Bah, ça y ressemble, en effet.
Et que fait Denard aux Comores ?
Le mercenaire, dès son premier séjour, a été séduit par ce pays paradisiaque. Paradisiaque, si on ferme les yeux, bien entendu, sur la misère de ses habitants.
Ah oui ?
Et entre 2 coups en Afrique ou ailleurs, il va s'y installer durablement pendant une bonne dizaine d'années. On a même pu dire que Denard était en réalité le vice-roi des Comores.
Vice-roi, c'est pas exagéré ?
Absolument pas. Abdallah gouverne apparemment, mais c'est Denard qui commande en réalité. Il dirige la garde présidentielle, qui est la véritable force militaire des Comores, et l'armée privée du mercenaire. Elle regroupe des centaines de Comoriens commandés par une 20aine d'Européens.
Des mercenaires, eux aussi ?
Bien sûr. Alors un petit mot sur ces gardes présidentielles qu'on a vu apparaître un peu partout en Afrique après la décolonisation. Et tout d'abord au Gabon. Une garde présidentielle, c'est une invention française. On y trouve généralement des mercenaires européens commandant à une petite troupe autochtone très encadrée, pour des régimes trop souvent instables et donc menacés en permanence. C'est une garantie de sécurité.
J'imagine que certaines de ces unités ont été téléguidées par les services spéciaux français.
Bah, forcément, ça permettait de contrôler encore plus étroitement les chefs d'État, puisque leur sécurité était assurée par des hommes que nous contrôlions.
Ouais. Mais en dehors de ça, quelle est l'utilité exacte d'une garde présidentielle en Afrique?
Sa mission, comme son nom l'indique, c'est d'abord de protéger le président et ses proches. Mais comme elle est indépendante de l'armée et qu'elle n'obéit qu'au président et à ses conseillers, elle permet d'entreprendre des actions illégales, de se livrer à des actes de police clandestins ou encore de liquider des opposants.
C'est très pratique, n'est-ce pas?
Ça permet de caser des mercenaires désœuvrés ou en mal de conflit.
La NPA du mercenariat.
En quelque sorte, oui. Malheureusement, il est parfois arrivé que ces gardes présidentielles, devenues trop indépendantes, se rebellent contre les chefs d'État qu'elles étaient censées protéger.
Ouais. Enfin, ça, c'est un risque inhérent à toute création d'un organisme sécuritaire parallèle. Hein.
Oui. Donc, pour en revenir à Denard, en créant de toutes pièces sa garde présidentielle, il ne fait que reprendre une idée déjà mise en pratique dans de nombreux autres pays du continent africain. Mais Denard ne se contente pas de contrôler cette puissante garde présidentielle. Il fait aussi des affaires, beaucoup d'affaires.
Attendez, avant d'examiner ce point-là, une garde présidentielle de plusieurs centaines d'hommes, m'avez-vous dit hein? Ça coûte très cher.
Vous avez raison.
Ouais. Alors, est-ce que le petit État comorien a les moyens de se payer une telle force armée?
Bien sûr que non, c'est impossible.
Alors, qui paie? La France?
Paris, via les services secrets, a déjà financé le retour du président Abdallah et l'expédition de Denard. La France ne veut pas ou ne peut pas en faire plus, même si, à l'occasion, elle ne répugnera jamais à donner un petit coup de pouce financier aux chefs mercenaires. Non. Non, c'est l'Afrique du Sud qui va prendre en charge l'entretien de cette soldatesque, avec l'accord de notre pays, bien entendu.
L'Afrique du Sud de l'apartheid.
Oui, oui. Ouais. Mais ça ne gêne nullement Denard, qui, sa vie durant, a collaboré et combattu avec des extrémismes de droite.
Mais l'intérêt de l'Afrique du Sud dans tout ça?
Vous allez comprendre tout de suite. La côte du Mozambique n'est pas très loin des Comores. Or, là-bas, les Africains du Sud soutiennent militairement un mouvement de rébellion contre les autorités marxistes en place depuis l'indépendance. Ils souhaiteraient installer aux Comores une station d'écoute qui leur permettrait de surveiller toute la zone du canal du Mozambique.
Ce que Denard est tout prêt à leur accorder.
C'est évident. Ah,
ouais. Et en contrepartie, j'imagine, Pretoria financerait la garde présidentielle de Denard?
Mais l'Afrique du Sud s'est rendue vite compte que ça lui coûterait très cher en argent, mais aussi en armes et en matériel divers. Aussi, elle a voulu en avoir pour son argent et en a demandé beaucoup plus. Et c'est ainsi que s'est établie entre les Comores et le pays de l'apartheid une coopération tous azimuts. Une coopération qui a permis de dissimuler bien des coups fourrés.
Denard, séduit par les Comores, certainement. Et si j'en crois cet article de Nouvelle Afrikasie paru en 1995... Le mercenaire français a failli réaliser un rêve et assurer une excellente retraite à ses chiens de guerre, pour reprendre l'expression de Pierre Péan. Dans les années 70, Denard s'est entiché des Comores. Il peut y faire régner sa loi, faire et défaire les régimes. Il sait qu'il peut même y réaliser l'étape ultime de sa vocation, le joker des jokers, devenir roi. Avoir un territoire à lui seul, réalisation suprême du conte de fées, version affreux du Katanga. Mais il se doit de gérer son pouvoir local sous couvert d'un président noir, en l'occurrence Ahmed Abdallah, 11 ans durant, de préférence positivement corrompu et suffisamment réaliste pour comprendre qu'il ne doit son pouvoir qu'au beau vouloir conjugué de Bob Denard et de la France. Denard est le vigile de la France, officieusement accrédité dans ce territoire, en tout cas avec ou sans lui, désormais le système Denard est toujours vivace aux Comores. Un système où des mercenaires peuvent souvent se refaire un statut en épousant des secrétaires d'ambassade ou en devenant de paisibles fermiers qui conservent toutefois l'arme au pied au cas où.
Vous avez parlé de coups fourrés.
Oui, la situation géographique des Comores, leur relatif isolement, facilitait tous les trafics possibles, au bénéfice de l'Afrique du Sud, d'abord.
C'était elle qui payait.
Et le pays de l'apartheid, qui faisait l'objet de mesures d'embargo, justement, en raison de sa politique raciste, a souvent utilisé les Comores pour desserrer cet étau international qui pesait sur son économie.
Comme par avant.
Oui, des armes, des marchandises destinées à Pretoria ont transité par les Comores. Et des Africains du Sud ont bénéficié de passeports comoriens afin de se déplacer dans des pays hostiles. À cette époque, où Denard était tout puissant sur ce petit territoire, les Comores sont donc devenus une sorte d'appendice de l'Afrique du Sud.
Mais la France pouvait-elle accepter que ce pays qui appartenait vraiment à la sphère francophone noue des liens aussi étroits avec Pretoria?
Oh, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu parfois des grincements de dents à Paris, mais globalement, la France se contentait d'une situation qui, au fond, l'arrangeait. D'abord parce que nous avions des intérêts stratégiques communs avec l'Afrique du Sud. Enfin, je ne veux pas tout développer, ce serait beaucoup trop long.
Enfin, on peut tout de même expliquer un peu, non ?
Eh bien, bon, écoutez, ce n'est qu'un exemple. La France n'était pas mécontente de voir l'Afrique du Sud combattre le régime marxiste et pro-soviétique de Mozambique. De la même façon, Paris et Pretoria, sous la première cohabitation, soutenaient activement l'unité de Savimbi.
En Angola.
Et là aussi, il s'agissait de combattre l'influence soviétique sur le continent africain. Mais, pour revenir à mon propos grâce aux Comores, certains hommes d'affaires français pouvaient tourner l'embargo qui frappait Pretoria.
Et d'après vous, avec l'accord des autorités françaises ?
Bah, disons que Paris ne pouvait pas ignorer. Non seulement parce que Denard rendait compte régulièrement, mais aussi parce que les services spéciaux avaient des agents sur place. Enfin, ça a permis aussi à la France de se livrer à quelques trafics discrets.
C'est-à-dire ?
Dans les années 80, Paris a été confronté à la question très préoccupante de nos otages au Liban. Nous en avons souvent parlé, d'ailleurs. Oui. Et c'était Téhéran qui détenait la clé de cette affaire.
Téhéran qui contrôlait les preneurs d'otages.
Bien sûr. Et les Iraniens engagés dans une guerre meurtrière contre l'Irak avaient un besoin urgent d'armes.
Parce qu'ils étaient eux aussi frappés par un embargo international.
Alors via les Comores et avec l'espoir d'amadouer Téhéran, des armes ont été discrètement livrées aux Iraniens. Décidément, vous le voyez, la position exceptionnelle des Comores et son contrôle par Bob Denard arrangeaient beaucoup de monde.
Tout à l'heure, vous avez dit aussi que le mercenaire faisait des affaires.
C'est évident. Une des chances des Comores, c'était le climat et les plages. Il était donc tentant d'y développer le tourisme. Et Denard s'y est attelé. Il a favorisé la construction par une chaîne internationale d'un hôtel de luxe. Et il a mis en place toute une structure qui prenait en charge les touristes dès leur débarquement sur l'aéroport de la Grande Comore. Automobile, transport des bagages, séjour, sécurité, tout était assuré par une société créée par Denard et ses hommes. Et dans son esprit, ce n'était qu'un début.
Ah oui, parce qu'il avait d'autres projets.
Oui, il voulait faire des Comores un paradis pour touristes. Et il était certain de compter sur des capitaux sud-africains. Mais au-delà, il y avait aussi une ambition que Denard voulait absolument réaliser. La création d'un corps de mercenaires permanents qu'il pourrait mettre à la disposition de tel ou tel en fonction des besoins et des conflits. Et ça aussi, ça intéressait l'Afrique du Sud, qui était engagée dans de nombreuses guerres post-coloniales, comme en Angola ou au Mozambique.
Et pour Denard, je pense, le noyau dur de ce corps de mercenaires, ça devait être la garde présidentielle comorienne.
Oui. Mmh.
Et cette brigade volante de mercenaires, on peut l'appeler ainsi, a-t-elle effectivement combattu ?
Une seule fois, à ma connaissance, au Tchad, en faveur d'Issénabré contre les Libyens. Une intervention brève et sans lendemain. Mais Denard avait programmé d'autres opérations que son départ des Comores a naturellement fait capoter. J'ajoute que cette garde prétorienne lui permettait aussi de régner d'une main de fer sur les Comores. Grâce à ses hommes, il avait installé un véritable réseau d'espionnage et de surveillance.
Parce qu'il y avait des opposants ?
La bourgeoisie et la petite armée comorienne subissaient de plus en plus difficilement la tutelle de Denard. Et à plusieurs reprises, le mercenaire a dû déjouer des tentatives de coup de force. Certains de ses hommes y ont, semble-t-il, trouvé la mort. Par conséquent, Denard était sans cesse sur ses gardes.
Et le président Abdallah ?
Bah, lui aussi en avait soupé des mercenaires et de sa garde présidentielle. Songez que Denard a régné plus de 10 ans sur les Comores. Et ce que le président craint par-dessus tout, c'est qu'un jour, Bob Denard ne le dépose et prenne carrément le pouvoir.
Abdallah a peur.
Il a peur, oui. Il se sent prisonnier dans son propre pays. Il le fait savoir à la cellule africaine de l'Élysée lors d'un voyage en France. Il essaye même de convaincre le capitaine Baril de l'aider à se débarrasser du mercenaire et de ses hommes et d'assurer sa sécurité. Mais Baril, pour une fois prudent, s'esquive.
Il n'a pas envie d'affronter Denard, c'est ça ?
C'est ça, c'est beaucoup trop risqué. Et je suis à peu près sûr que la DGSE lui a fermement recommandé de ne pas se mêler de cette affaire. Mais cette rencontre va avoir un effet important. Denard a été informé de la rencontre entre le président et l'ancien gendarme.
Comment ?
Bah, exactement, je ne sais pas, mais on peut imaginer que de bons amis de Denard dans les services secrets l'ont informé. Et cette manœuvre n'était sans doute pas innocente.
Que voulez-vous dire ?
Bah, on voulait peut-être pousser le mercenaire à passer à l'action.
C'est-à-dire ? À se débarrasser du président Abdallah ?
Je le pense, oui. Et je le rappelle, fin 1989, Abdallah sera tué dans des circonstances très curieuses. Mais on y reviendra, si vous voulez bien.
Oui. Mais il faut tout de suite dire que Denard et ses hommes accusés d'avoir assassiné le président Abdallah seront blanchis par une cour d'assises française.
C'est parfaitement exact. Toutefois, ça ne veut pas dire qu'on a pour autant élucidé cette affaire.
Elle a été jugée.
Enfin, je vous le promets, on en reparlera.
D'accord, mais pourquoi Alors, aurait-on voulu pousser Denard à liquider Abdallah ?
Parce qu'on avait jugé qu'aux Comores, ça devait enfin changer.
Mais quoi, la mainmise des mercenaires sur ces îles ?
Évidemment, mais pas seulement ça. Abdallah était jugé trop embarrassant. Il persistait à demander le rattachement de Mayotte à la Fédération des Comores. C'était chez lui obsessionnel, et ça agaçait Paris. Il fallait donc un jour ou l'autre tourner la page.
Attendez quand même. Vous dites, on avait jugé que ça devait changer, mais qui se cache derrière ce « on » ?
L'Afrique du Sud et la France.
Ensemble ?
Ensemble, oui, aussi surprenant que cela paraisse.
Ah, il faut quand même m'expliquer ça.
Bah, c'est ce que je vais faire, rassurez-vous. L'Afrique du Sud, d'abord. Là-bas, les choses commencent à changer. Et dans les milieux influents, depuis l'arrivée au pouvoir de Frédéric de Klerk, on se dit qu'il faudra bien en finir un jour ou l'autre avec la politique d'apartheid qui isole le pays au sein de la communauté internationale. Ça signifie aussi prendre ses distances avec les alliés d'hier.
Et parmi eux, Denard.
Denard en particulier. Denard qui coûte très cher et à qui peu à peu on diminue le montant de l'aide financière. Au principe, c'est un signe qui ne trompe pas. Le mercenaire a parfaitement compris. Et se demande comment, à l'avenir, il pourra payer les membres de sa garde présidentielle.
Mais est-ce que c'est aussi une façon de le pousser à la faute, c'est-à-dire de tenter l'impossible pour durer ?
Et assurer lui-même le pouvoir ?
Oui, en puisant directement dans les caisses de l'État pour payer ses hommes, par exemple.
C'est une hypothèse à laquelle je n'avais pas pensé, mais pourquoi pas ?
Oui. Et la France, alors, son intérêt, après tout, Denard a toujours été un serviteur fidèle, non ?
C'est vrai. Mais à Paris, où Mitterrand a été réélu après la première cohabitation, on considère que la présence du mercenaire aux Comores commence à faire tâche.
Alors, on aurait pu s'en apercevoir avant, hein.
C'est tout à fait juste. Mais le nouveau gouvernement français...
Rocard,
oui,
c'est ça, hein.
Qui considère, en accord avec la cellule africaine de l'Élysée, qu'il faut faire un geste et mettre un point final à l'activité des mercenaires français en Afrique. Il en va de l'image de la France. C'est ainsi qu'on va faire coup double, se débarrasser du président Abdallah et éloigner Bob Denard des Comores.
Jean-Christophe Mitterrand, qui était à l'Élysée... Le responsable de la cellule africaine a publié assez récemment un livre de souvenirs. Il parle des Comores, je le cite. Plusieurs mois avant sa mort, le président Ahmed Abdallah me reçut dans son petit appartement parisien. Rendez-vous de routine pour ma part, aucun dossier particulier n'étant en souffrance, si ce n'est la garde présidentielle dirigée par Bob Denard et ses mercenaires et financée par l'Afrique du Sud. C'était une décision souveraine des Comores et jamais mon père n'en avait fait une situation de blocage, mais... Elle desservait la réputation en Afrique et ailleurs de ce petit archipel. Je n'avais jamais été chargé de lever officiellement la question d'honneur avec le président. Tout à coup, il aborda le sujet et me dit « J'ai l'intention d'arrêter le contrat qui me lie à Bob Denard et aux mercenaires, mais je ne peux pas couper la tête de la garde présidentielle sans préparer la relève de son encadrement. Au cas où je prendrais cette décision, la coopération française est-elle prête à prendre en charge son encadrement ?» Je fis une réponse de circonstance. Je ne suis pas habilité à vous répondre. Cela dépend du président et des ministres concernés. Je veux lui faire part tout de suite de votre souhait. Dès mon retour, je rédigeai une note de quelques lignes. Elle me revint le jour même avec la mention « oui ». Mais, d'après Jean-Christophe Mitterrand, à l'Élysée, on décide de garder le secret tant qu'Abdallah n'aurait pas fait connaître lui-même sa décision. Et pourtant, Denard est informé. Et le fils du président français ajoute « Je n'ai jamais su d'où avaient pu venir les fuites, mais il y avait trop d'intervenants dans cette affaire pour que la décision du président Abdallah de se séparer des mercenaires pût rester secrète. » Le livre de Jean-Christophe Mitterrand, intitulé « Mémoire meurtrie », a été publié chez Plomb.
C'est une nuit de novembre 1989 que le président Abdallah est abattu. Dans le bureau du chef d'État se trouvent quatre hommes. Abdallah, Denard et deux de ses adjoints, des mercenaires de la garde présidentielle. La veille, le président a téléphoné à un de ses contacts à Paris pour dire une nouvelle fois qu'il avait peur.
Peur. Mais que se passe-t-il exactement ce
soir ? Examinons d'abord la version Denard. Le mercenaire et ses deux adjoints font irruption dans le bureau présidentiel pour l'informer que l'armée est en train de prendre le pouvoir. On a effectivement entendu des tirs à proximité du palais. Denard, c'est toujours sa version, demande alors au président un ordre écrit autorisant ses propres hommes à désarmer les militaires.
Et Abdallah accepte ?
Il hésite, mais finit par signer. Toutefois, la discussion a dû être vive. À cet instant, le garde du corps du président, un certain Jaffar, alerté par la discussion orageuse qui vient d'avoir lieu dans le bureau du président, entre. Il voit Denard près du président. Il pense que Abdallah est en danger et tire une rafale de mitraillette. Denard a le temps de se jeter à terre et c'est le président qui encaisse les balles. Ensuite, Jaffar est abattu par un des adjoints de Denard.
Un peu rocambolesque, non ?
Ah, n'oubliez pas que le mercenaire a été innocenté par la justice française.
Je veux bien, enfin, vous ne m'empêcherez pas de penser que cette version est pour le moins bizarre.
Surtout quand on sait que l'armée comorienne ne fomentait nul coup d'état et que son chef, le commandant Mohamed Hamed, se trouvait alors sur l'île d'Anjoun.
Et les coups de feu alors qu'on a entendus autour du palais présidentiel,
bah, ils ont pu être tirés par d'autres hommes que des militaires, des mercenaires de la garde présidentielle par exemple.
Pour faire croire au coup d'état.
Bien sûr.
Et la suite ?
Le président Abdallah étant mort, Bob Denard est alors le détenteur du pouvoir.
Il réalise son rêve, là.
Son rêve, oui. Il n'a plus de président fantoche au-dessus de lui. Et la première chose qu'il fait pour accréditer sa thèse du coup d'état militaire, c'est de faire rechercher le chef de l'armée.
Ce commandant, là, Mohamed Ahmed, c'est ça ?
Oui, un commando de la garde présidentielle débarque sur l'île d'Anjouan dès le lendemain de l'assassinat d'Abdallah. La maison du chef de l'armée est localisée, mais Ahmed a entendu du bruit. Il se cache dans un coin de sa chambre. Quelques instants plus tard, une roquette pulvérise la pièce, mais le commandant en réchappe miraculeusement.
Le but était donc de le tuer.
Vous avez une autre hypothèse ?
Bah non.
Ensuite, Ahmed sera arrêté, mais il sera difficile de le liquider.
Ouais. Alors, si je comprends bien, Denard a donc maintenant les pleins pouvoirs.
Oui, ça ne va pas durer, car la deuxième phase de l'opération prévoit son départ des Comores, et ça va aller très vite. Quelques jours après la mort du président Abdallah, 4 navires de guerre français se rassemblent à Mayotte. En principe, ils doivent évacuer les Français des Comores. Mais leur présence ne peut pas tromper Denard. C'est son départ qui est programmé. Et bientôt, des centaines de para-français arrivent à Moroni, la capitale de la Grande Comore.
La garde présidentielle ne réagit pas ?
Non. Tout a été négocié d'avance entre Paris, Pretoria et Denard. Le mercenaire a obtenu sans aucune difficulté la possibilité de partir pour l'Afrique du Sud. Et même la promesse qu'il ne serait pas poursuivi par la justice.
Une promesse qui ne sera pas tenue, hein.
Ah, que voulez-vous ? Il existe aujourd'hui des juges qui veulent à tout prix s'émanciper.
Mais pourquoi ? Enfin, en 1989, tant de clémence pour Denard, parce qu'il était facile de l'arrêter.
C'est certain. Mais le mercenaire en savait beaucoup, beaucoup trop. À la fois sur la France et l'Afrique du Sud, par conséquent, il était bien plus sage pour tout le monde de lui offrir un exil doré à Pretoria.
Et pourtant, en 1993, il est de retour en France.
Oui, officiellement, il tient à répondre devant la justice de sa responsabilité dans l'affaire de Cotonou. Mais il se peut aussi que les Africains du Sud, en quête de respectabilité, aient décidé de se séparer d'un autre aussi encombrant.
Donc en 93, il est jugé. Hein.
Et comme vous le savez, grâce à un défilé impressionnant d'anciens des services qui le décrivent tous comme un homme d'honneur et un fervent patriote, il est condamné à 5 ans de prison avec sursis.
Ses témoins affirment donc implicitement qu'il avait agi au nom de la France.
Oui, à la demande des services spéciaux de notre pays avec l'accord des responsables politiques. Denard est donc immédiatement libéré. Toutefois, il est soumis à un contrôle judiciaire qui lui interdit de quitter la France.
Parce qu'on a peur qu'il récidive.
Certainement. Parce que Denard n'est pas homme à dételer. Et en effet, il continue à grenouiller dans les milieux où on recrute des mercenaires. L'extrême droite, les services d'ordre, les associations d'anciens des armes d'élite, paras ou légionnaires. Je crois qu'il crée même une ou plusieurs sociétés spécialisées dans la sécurité. Mais enfin, peu importe. Car en 1995, le vieux corsaire, comme il s'appelle lui-même, va replonger.
Et aux Comores, encore une fois ?
Décidément, il est attiré par cet archipel où il possède un important patrimoine. En septembre, donc, avec une brochette de mercenaires français, il débarque d'un vieux cargo. Et avec une facilité déconcertante, il s'empare du président Johar, le successeur d'Abdallah.
Avec une facilité déconcertante, dites-vous.
Oui, il n'y a aucune résistance, et pourtant, Denard n'a qu'une 20aine d'hommes avec lui.
Alors, comment expliquez-vous cela ?
Bon, c'est très simple. Nos services secrets contrôlent tout aux Comores. La nouvelle garde présidentielle, mais aussi le renseignement.
Ça veut dire qu'une nouvelle fois, Denard agit en connivence avec les services français.
Naturellement.
Mais cette fois-ci, là, quel est l'objectif poursuivi ?
Encore une fois, changer de président aux Comores.
Décidément, enfin, vous en êtes sûr ?
Absolument. Car notez bien ce qui va se passer. Quelques jours après le débarquement de Denard, des forces spéciales françaises, paras, commandos de marine, gendarmes du GIGN, arrivent à leur tour aux Comores. Denard fait aussitôt savoir qu'il ne résistera pas.
Et ils seront.
Oui. Ah. Et comme il n'a pas respecté le contrôle judiciaire auquel il était soumis, il est arrêté. Ça lui vaudra de passer quelques temps à la santé dans le quartier réservé aux personnalités. Mais ça ne durera pas. Le président Johar, lui, est libéré par les militaires français, mais très curieusement, le conduit à la Réunion, tandis qu'un autre homme s'installe à sa place au pouvoir avec la bénédiction de Paris. Étrange, non?
Oui. La tentative de Denard n'aurait donc eu pour but que d'éloigner Johar.
Je le pense, tout ça a été cousu de fil blanc.
Mais, expliquez-moi, là, que lui reprochait-on à ce président de Johar?
D'être, prétendait-on, excessivement corrompu, mais surtout d'entretenir des liens un peu trop étroits avec les Iraniens. Et Paris ne pouvait pas accepter que sur un archipel qui faisait partie du précaré français s'installe un foyer islamique qui aurait pu rayonner dans la région et même peut-être en France.
Alors voilà pourquoi Denard a été envoyé là-bas.
Denard qui ne trahira jamais ses commanditaires et ne s'expliquera jamais sur l'origine de l'argent qui lui a permis d'organiser ce coup. Sans doute le dernier de sa tumultueuse carrière.
Bob Denard, septuagénaire, est maintenant un retraité du mercenariat. Mais d'autres mercenaires sont prêts à agir dès lors qu'on les paye. Dans un article de la revue Croissance, Jean-François Bayard fait ce constat assez effrayant. Dans le monde néolibéral, la guerre est désormais privatisée, au même titre que l'économie et la politique publique de l'État. Les autorités publiques sous-traitent désormais au secteur privé un nombre grandissant de fonctions de souveraineté. Elles ne s'en désintéressent pas pour autant et en gardent le contrôle direct, ne serait-ce que par l'intermédiaire du pantouflage et du chevauchement. L'intervention des privés de la sécurité favorise la militarisation du jeu politique en levant des milices locales et en important de nouvelles armes. Elle transforme l'enjeu politique de la paix civile en enjeu commercial ouvert à la concurrence. On voit mal l'intérêt que les privés de la sécurité trouveraient dans le maintien d'une paix perpétuelle qui les écarterait d'un marché si lucratif. Ajoutons que ce sont des sociétés anglo-saxonnes qui dominent ce marché du mercenariat. Mais en France, où les sociétés de sécurité pullulent, les troupes de choc des partis d'extrême droite, et en particulier le service d'ordre du Front National, le fameux DPS, constituent des réserves d'hommes prêts à tout moment à se transformer en mercenaires. Et il faut enfin remarquer que sur ce marché lucratif, on retrouve aussi la plupart des anciens de la cellule de l'Élysée.